Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, cette information France Inter à propos des enfants de djihadistes. Une plainte contre la France devant l'ONU pour violation des droits de l'enfant. La France doit les rapatrier, plaident trois avocats.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle histoire on est en train de créer là pour ces gosses qui n'ont rien demandé, qui sont innocents, ce sont les premiers victimes de guerre.
C'est au micro de Sophie Parmentier, plaidoirie vibrante, vous l'entendrez dans un instant. Doit-on dire une chef ou une cheftaine? Faut-il saluer la générale? Peut-on parler d'une sapeuse-pompière? Rapport de l'Académie française sur la féminisation des noms de métiers et de fonctions. Révolution sous la coupole, l'une des auteurs du rapport, Daniel Salnave, est l'invité de notre journal. À la rubrique culture, nous parlerons également du loto du patrimoine, saison 2, avec Jacqueline Pétrose, un tirage du loto le 14 juillet, jour évidemment symbolique. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
La chronique européenne du jeudi. Dans ce journal de 13h, nous reviendrons sur la bagarre entre France et Pays-Bas à propos d'Air France KLM. Il y a beaucoup de conflits économiques entre partenaires européens, Delphine. Hein.
Oui, c'est le dernier avatar des lunes de miel qui tournent à la scène de ménage dans l'industrie européenne. Pas facile de s'entendre entre voisins lorsqu'on touche à la souveraineté.
Dans ce journal encore, l'échec du sommet Trump-Kim Jong-un, l'abandon du nucléaire par la Corée du Nord reste un rêve. Trump rentre à Washington, la ville où hier son ancien avocat le traitait de tricheur, raciste et menteur. Vous entendrez la réponse du président américain. En Algérie, l'arrestation de la correspondante de France Inter, Leïla Berato, coup de filet de journaliste qui proteste contre la censure en pleine contestation dans le pays. L'assurance vie ne rapporte rien. Pire, vous perdez de l'argent. C'est un coup de gueule de l'association de consommateurs CLCV contre la rémunération trop faible de l'assurance vie. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Sébastien Léas, Météo France, est-ce que le printemps, voire l'été, quasiment est terminé?
Non, pas partout, puisque le soleil résiste en Alsace et des Alpes au pourtour méditerranéen et on garde une belle douceur avec 17 à 24 degrés. Quelques records pourraient même tomber cet après-midi. En revanche, sur le reste du pays, l'après-midi est nuageux avec même quelques averses isolées sur la moitié nord. Mais des averses plus régulières vont se mettre en place entre les Hauts-de-France et la Normandie, gagnant le bassin parisien avant la fin de journée. Les températures sont forcément fortement en baisse, variant de 13 à 19 degrés.
Et circulation différenciée contre la pollution aujourd'hui. À Lyon, à la fin de ce journal, parole de chasseurs de météorites, alors qu'une vente aux enchères hors du commun a lieu à 14h, le 13h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Rapatrier ou pas ? Les enfants de djihadistes, une fois de plus, la France est face à ce dilemme. C'est une information France Inter, signée Sophie Parmentier. Trois avocats viennent de déposer une plainte contre la France devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Ils accusent l'État français de violer la Convention internationale des droits de l'enfant. On estime que des dizaines de petits Français sont retenus, certains depuis plus d'un an, dans des camps au Kurdistan syrien avec leurs parents. Trois avocats déposent cette plainte, parmi lesquels Marie Dosé.
Les enfants sont en train de mourir de soif, de faim. Ils sont malades, certains sont orphelins. Ils sont sur un terrain de guerre dans des conditions sanitaires absolument effroyables. Ce sont des enfants français qui n'ont pas demandé à être emmenés là-bas. Et je ne sais pas très bien ce qu'on est en train de leur faire payer. L'État français est signataire d'une convention internationale des droits de l'enfant qui s'appelle la Convention de New York. L'État français est signataire. Que cet État respecte ses engagements. Moi, je suis outrée de voir qu'Emmanuel Macron, aux côtés du président irakien, donne priorité à la livraison de 13 djihadistes à la justice antiterroriste irakienne, mais n'a pas un seul mot pour évoquer le sort de ses enfants. Depuis le début, aucun rapatriement d'enfants et de leur mère n'a été organisé par l'État français. Aucun ! Les enfants sont arrivés avec leur mère grâce à des ONG, grâce à des passeurs, mais jamais sur une procédure officielle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle histoire on est en train de créer là pour ces gosses qui n'ont rien demandé, qui sont innocents? Ce sont les premiers victimes de guerre.
Marie Dosé au micro de Sophie Parmentier pour cette information France Inter que vous retrouvez sur notre site internet franceinter.fr de la zone irako-syrienne au Sahel. Le Sahel, avec ces chiffres donnés hier par la ministre des Armées Florence Parly, l'armée française a neutralisé, autrement dit tué, plus de 600 djihadistes au Sahel depuis 4 ans, au moins 200 rien que pour l'année dernière. 20 heures d'avion pour l'un, 2 jours et demi de train pour l'autre, et à la fin, pas grand-chose. Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un au Vietnam s'est achevé sans accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Dominique André, vous êtes en direct d'Hanoï, Vietnam, où vous avez suivi les échanges depuis hier au Sofitel Legend Métropole. Est-ce qu'on peut parler d'échec complet ou partiel ?
Bonjour Bruno. La Maison Blanche essaie de tempérer en tout cas cet échec. Donald Trump, l'homme qui n'était pas pressé de signer un accord, est reparti pour Washington l'air fatigué et avec les mains vides. Le sommet a été écourté, aucune déclaration commune n'a été signée et même le dîner dans le luxueux hôtel Métropole a été annulé. Il faut parfois quitter la négociation, a lancé Trump devant la presse. Alors le président américain impute toutes les raisons de cet échec aux exigences de Kim Jong-un qui reste néanmoins son ami. On n'a pas rompu de manière agressive, on s'est serré la main, a-t-il souligné, mais les choses sont dites.
Sur le fond, ils voulaient la levée totale des sanctions. Mais nous ne pouvions pas accepter cela. Nous ne pouvions pas tout lever comme cela, alors qu'ils étaient prêts seulement à une dénucléarisation partielle. On va donc continuer de travailler, mais là, on a dû s'interrompre.
Va-t-on assister à la suite de cet échec à une reprise des essais nucléaires nord-coréens arrêtés depuis 2017? Kim Jong-un n'aurait pas l'intention de les reprendre. Il l'a promis, j'ai confiance en lui, a dit Donald Trump. Mais l'avenir est incertain, bien que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, évoque des progrès réels enregistrés. Aucun calendrier n'est annoncé pour la poursuite des négociations et un troisième sommet Kim-Trump n'est toujours pas à l'ordre du jour.
Merci Dominique André en direct d'Hanoï, Vietnam. Après cet échec, la Chine dit souhaiter que le dialogue se poursuive. La Corée du Sud regrette le résultat, mais voit tout de même des progrès après ces deux jours de rencontres. Quoi qu'il en soit, Donald Trump ne rentre pas à Washington avec le succès diplomatique espéré. Et c'est une ville encore pleine de l'audition d'hier qu'il va retrouver. L'audition de son ancien fidèle avocat Michael Cohen, qui a décidé de balancer toutes les turpitudes de Trump, à la fois raciste, escroc, tricheur, a dit Michael Cohen hier devant la Chambre des représentants. Cet avocat va bientôt passer par la case prison, au passage, pour les mensonges proférés à l'époque où il défendait Trump, mais aussi pour fraude fiscale. Alors la défense du président américain, depuis Hanoï, était toute trouvée. Ce garçon ne dit pas la vérité.
Organiser une audition bidon comme celle-là, l'organiser au milieu de ce très important sommet, est vraiment quelque chose de terrible. Il a beaucoup menti et c'était intéressant parce qu'il y a une chose au sujet de laquelle il n'a pas menti, il a dit « pas de collusion avec le canular russe ». Et je me suis dit « pourquoi il n'a pas non plus menti à ce sujet comme au sujet de tout le reste ?» Le fait est qu'il n'y a pas de collusion et j'appelle cela une chasse aux sorcières. Ce ne serait jamais arrivé à un autre président, c'est mauvais pour notre pays.
Propos traduit par Thibaut Cavaillès, propos de Donald Trump, donc il y a quelques heures à Hanoï. Encore des échanges de tirs ce matin, selon l'agence Reuters, à la frontière entre Inde et Pakistan, qui se dispute la région du Cachemire. Le Pakistan retient un pilote indien après l'épisode de guerre aérienne d'hier. Nous sommes prêts à le libérer si cela conduit à une désescalade, dit le chef de la diplomatie pakistanaise. Imaginez cette situation en France. Un président très, très diminué par un accident vasculaire cérébral, invisible depuis 5 ans et qui pourtant se présente à un cinquième mandat. C'est contre cela, contre ce que cela révèle d'un système que les Algériens manifestent depuis la semaine dernière et ils n'obtiennent même pas de réponse précise à cette question simple. Où est le président Abdelaziz Bouteflika ? En Suisse, répond le pouvoir. En est-on bien sûr, Jérémy Lanche ?
Le communiqué publié par la présidence algérienne tient en une phrase. Abdelaziz Bouteflika est à Genève pour des contrôles médicaux périodiques. Alger parle d'un court séjour. Pour le reste, c'est le flou total. Selon la tribune de Genève, Abdelaziz Bouteflika serait soigné aux hôpitaux universitaires. Mais sur place, rien n'indique la présence d'un chef d'État. Aucun service de sécurité n'est visible. L'accès aux différents étages se fait normalement. Même constat, une trentaine de kilomètres plus loin, sur les hauteurs du lac Léman, à la clinique ultra-chic de Génolier, Abdelaziz Bouteflika y aurait déjà été soigné, mais la suite présidentielle avec ses robinets en or dans la salle de bain et ses dépendances pour garde du corps, cette suite était vide ces derniers jours. Si le président algérien est encore en Suisse, tout est fait pour que sa présence passe inaperçue. Contacté, un expert de la politique algérienne affirme qu'Abdelaziz Bouteflika se rendrait presque tous les mois en Suisse pour raison de santé. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et en Algérie, nouvel appel à manifester aujourd'hui. Manifestation aussi de journalistes sous forme de sit-in pour protester contre la censure. Une dizaine de journalistes ont été arrêtés, dont la correspondante de France Inter, Leïla Berato. Je vous en parlais dans les titres.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et nous sommes à présent avec l'invité de ce journal, l'académicienne Danielle Salnave. Bonjour madame.
Bonjour.
Académicienne, écrivaine, est-ce que désormais je peux le dire, Danielle Salnave, sans avoir peur de me faire reprendre ?
Vous ne vous ferez pas reprendre. Je pense que le mot est présent, qu'il l'est de plus en plus, et il va s'imposer, et il deviendra tout naturel, peut-être pas demain, peut-être dans un an, dans 10 ans, je ne sais pas, mais il deviendra tout à fait naturel. Après tout, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur le plan de la formation du mot. Les femmes dont j'étais, moi, l'ont refusé pendant longtemps, pensant que c'était pas important d'être un homme ou une femme, ce qui comptait, c'était d'abord d'écrire. Et maintenant, je pense que nous pouvons considérer que être écrivaine, ça fait comprendre qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine, donc c'est bien.
Alors Daniel Salnave, l'Académie examine cet après-midi le rapport qu'avec 3 collègues, Gabriel Debreuil, Dominique Bonin, Michael Edwards, vous avez préparé sur la féminisation des noms de métiers. Est-ce que le principe général, au fond, c'est que tout nom de métier et de fonction doit désormais avoir un féminin ?
Bon, je ne vais pas vous répondre en détail, tant que le rapport n'a pas été présenté à la compagnie, tant qu'il n'a pas été voté, mais je pense que nous assistons à quelque chose qui est tout à fait normal, qui est tout à fait dans l'histoire de l'Académie, contrairement à, peut-être à ce qu'on pense, c'est que l'Académie ne se précipite pas sur les nouveaux usages. Elle ne peut pas les freiner, ça n'a aucun sens, personne ne peut freiner un usage. Mais à partir du moment où il se présente régulièrement et de plus en plus présent, s'impose de plus en plus, l'Académie en tient compte et l'inscrit dans ses préconisations ou tout simplement dans ses constats. C'est un usage qui s'installe et l'Académie ne peut pas ne pas le reconnaître et le saluer. Et lorsqu'il était imposé d'office, en anticipant des évolutions, là l'Académie freine à ce moment-là.
Et l'Académie va donner des repères également, Daniel Salnave, c'est-à-dire il y a des titres ou des métiers pour lesquels aujourd'hui il y a plusieurs féminins. Chef, par exemple, ça peut faire chef ou cheftaine. Est-ce que le rôle de l'Académie, voilà, c'est de dire il faut fixer une norme ?
Non, je pense que l'Académie ne fixera pas de normes. Elle va essayer de montrer que nous sommes dans une période de transition, que comme toute période, c'est très intéressant les transitions. Ces transitions font état de quelque chose qui est déjà ancien, mais de plus en plus présent, la présence des femmes dans de très nombreux métiers et dans très nombreuses fonctions, y compris les plus élevées. Donc, à partir de ce moment-là, l'Académie prend acte de cette évolution, du désir des femmes d'être davantage visibles, mais beaucoup d'hommes sont d'accord, hein, c'est pas une revendication uniquement féminine. Les femmes sont présentes, il est normal ça se voit dans la langue. Cela dit, la solution n'est pas définitive. Comme toute période de transition, il y a plusieurs mots parfois qui se présentent et on a encore le choix entre eux. Il y a des femmes qui ne veulent pas être appelées, quand elles sont ambassadeurs, ne veulent pas être appelées ambassadrices. Bien, eh bien, on dira Madame l'ambassadeur. Mais beaucoup de femmes voudront être appelées Madame l'ambassadrice. Bien, nous en prenons acte et nous ne voyons aucune raison de considérer que c'est pas bien.
Donc vous allez au fond suggérer plusieurs pistes.
Nous allons suggérer les pistes en tenant compte de ce qui se passe. Par exemple, un mot comme docteur au féminin, on disait doctoresse. Quand j'étais petite, moi, dans mon village, à la campagne, j'ai la doctoresse. Maintenant, on ne le dit plus. Donc, l'Académie prend acte de cela, dit, bah, voyez, docteur, la féminisation n'est pas passée. Mais il y a des mots dans lesquels elle est en train de passer. Et elle va probablement passer dans les périodes qui suivent. Donc, elle est dans son rôle d'examiner l'usage, de l'examiner le plus largement possible, pas de façon exhaustive, hein, c'est pas possible.
Enfin, comment avez-vous examiné l'usage d'ailleurs ? Vous avez lu la presse,
on a les romans, la presse, on a le service du dictionnaire qui travaille très bien pour fournir tous ces éléments de réflexion, et on a essayé de voir que c'était vraiment pas simple, qu'il y avait des femmes qui résistaient, qui voulaient pas qu'on dise leur profession masculin, il y avait au contraire des femmes qui voulaient depuis toujours qu'on mette au féminin. Bon, eh bien, nous examinons et nous ne sommes pas là pour dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. S'il y avait des formations qui étaient franchement choquantes grammaticalement ou par rapport aux règles de la langue, là nous le dirions, mais pas d'une manière autoritaire, hein, nous ne sommes pas des contractuels avec un carnet de contraventions.
Et est-ce que vous allez vous prononcer au fond sur l'esthétique ? Il y a l'exemple qui revient toujours ou très souvent, la fameuse sapeuse pompière qui comme ça nous semble moche, non. Mais après tout c'est peut-être une question d'habitude.
Oui, ça je pense que ces questions-là, elles datent un peu. Je pense que pour ce qui me concerne moi, je parle plus en mon nom peut-être qu'au nom de toute l'Académie, mais enfin en mon nom moi, je pense que la beauté, l'esthétique de mots, c'est très subjectif et que ça peut tout à fait changer. Et quelquefois, c'est un argument pour refuser. Ah ben non, on veut pas le mettre au féminin, c'est trop moche. Ben non, c'est pas parce que c'est moche, c'est parfois parce qu'on n'a pas envie que ça passe au féminin. Donc nous essayons de ne pas du tout utiliser ce genre d'argument trop subjectif.
Vous parlerez des fonctions également ?
Bien sûr, parce que les fonctions, ça a été délicat. Pendant longtemps, on a considéré que les fonctions, au fond, échappaient à la détermination du sexe. Et c'était surtout l'époque où peu de femmes les occupaient, ces fonctions. Mais au fur et à mesure que les femmes ont occupé ces fonctions, les ont exercées, ben petit à petit, elles ont tout à fait accepté, voire souvent désiré qu'on les donne, qu'on les nomme au féminin. Madame Edith Cresson voulait pas être première ministre. Oui. Elle était la première, elle était premier ministre. Il est clair que la prochaine femme qui sera premier ministre, elle dira première ministre et que personne ne trouvera à y redire. Ça m'étonnerait qu'elle veuille être premier ministre.
Le calendrier maintenant, Daniel Salnav, c'est vous présenter le rapport cet après-midi.
Nous présentons le rapport cet après-midi, il est soumis au vote, et à partir de là, une version du rapport destinée à sera mise en ligne, communiquée très largement, donc c'est cet après-midi, l'après-midi décisif pour nous, alors, après nos 2 mois et demi de travail.
Alors bonne séance de travail.
Oui, merci de m'avoir accueilli.
Et merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Allez, vous avez peut-être vécu cette situation un samedi soir, par exemple. Vous faites une cystite ou une conjonctivite. Ça n'est pas la première fois. Vous connaissez les symptômes. Vous savez qu'un médicament peut vous soigner, mais ce produit est sur ordonnance et il n'y a pas de médecin disponible ou alors pas de médecin à proximité. Si vous connaissez le pharmacien du coin, il vous dépanne, mais pas toujours. Et si on autorisait officiellement les pharmaciens à délivrer des médicaments dans des cas comme celui-ci, sans ordonnance, dans des cas de petite urgence, c'est ce que souhaite Thomas Meynier, le rapporteur de la loi santé qui va bientôt passer au Parlement. Il voudrait donc ajouter cette disposition au projet de loi. Il y a une certaine réticence des médecins, le syndicat MG France, voilà une menace sur la qualité de la prise en charge des patients. Mais du côté des pharmaciens, l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine est plus enthousiaste. Écoutez son président Gilles Bonnefond.
On voit bien que le temps médical est devenu rare dans certains territoires. Quand les médecins sont là, ils sont parfois débordés. En fin de semaine, c'est un petit peu compliqué. Les urgences sont parfois débordées par des demandes de patients où cela ne nécessite pas la présence aux urgences. Donc, nous, on est présents sur les territoires, mais parfois, on est bloqué. L'exemple le plus connu, c'est la cystite, l'infection urinaire pour une jeune femme. Ça arrive souvent. Et quand elles viennent le vendredi soir, le samedi, il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic médical. 3-4 questions qui sont posées, c'est ce qui se passe aux urgences. Et la patiente, on lui prescrit ce fameux médicament qui est un antibiotique à usage unique, un seul sachet, et on est soulagé. Donc, on dit, est-ce que dans des cas particuliers où le médecin n'est pas accessible, est-ce qu'on ne peut pas apporter cette réponse? Le pharmacien ne fait jamais de diagnostic médical, simplement il peut traiter toute une série de symptômes. Ils l'ont fait en Suisse maintenant depuis pratiquement 7-8 ans, en accord avec les médecins, sur un protocole, ça se passe très bien, il n'y a aucune difficulté, et on rend service à ces patientes qui sont en difficulté.
Un propos recueilli par nos confrères de France Info, le débat ne fait commencer sur ce sujet. Le projet de loi est examiné en commission des affaires sociales à partir du 13 mars. À la rubrique santé, autre information, cette recommandation de l'agence du médicament par mesure de précaution, n'utilisez plus de médicaments à base d'argile comme le Smecta pour traiter une diarrhée aiguë chez des enfants de moins de 2 ans, possible présence d'infime quantité de plomb. Le défilé des politiques au salon de l'agriculture, Marine Le Pen comme les autres, c'est ce matin que la présidente du Rassemblement National arpentait les allées, visite que vous avez suivie pour France Inter, Maxence Lambrecq. Comment les agriculteurs ont-ils accueilli Marine Le Pen?
Aucun sifflet, aucune insulte. Marine Le Pen, tout sourire. D'abord au chevet d'imminence, l'égérie du salon qui n'avait pas envie de se lever ce matin.
Oh, laissez-la tranquille, la pauvre. Déjà, elle est stressée. Oh non, vous n'avez pas fait que vous bouquez, lui taper dessus, faut qu'elle se lève.
Elle veut pas.
Elle est comme moi, elle est sereine et tranquille.
Il faut faire des gens comme vous pour dire de pouvoir refaire et remonter les informations.
Bien sûr.
Marine Le Pen se veut la porte-parole du monde agricole et a toujours dans le viseur l'Union européenne et la prochaine réforme de la PAC, la politique agricole commune.
On verse encore 1,5 milliard de plus à l'Union européenne cette année et parallèlement on nous dit on va baisser la PAC. Et pourquoi on va baisser la PAC? Pour pouvoir libérer de l'argent et notamment pour accueillir les migrants. Non mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter la folie. Donc moi je suis désolé, mais je considère que l'argent des Français doit aller plutôt aux paysans qu'aux migrants. On me reprochera ce résumé, mais pourtant ce résumé c'est une réalité.
Impossible de le vérifier pour le moment entre les taureaux et les brebis pendant qu'elles enchaînent les selfies.
Je suis pas à contre-jour, non?
Non, ça va.
Ça va. D'accord.
Merci. Merci.
Et oui, Marine Le Pen n'est pas là pour approfondir certains dossiers, mais bien pour jouer à fond la carte de la proximité.
Est-ce que le résumé est une vérité? Les fact-checkers vont se mettre au travail désormais. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Il faut trouver une porte de sortie avec les Pays-Bas. Voilà ce que dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui rencontre son homologue demain à propos du conflit Air France-KLM. Le gouvernement néerlandais, qui monte à hauteur de 14% au capital d'Air France-KLM, à égalité avec la France, bataille d'influence. Il y a un petit peu d'orage entre les deux pays. Et Delphine, ce type de dispute n'est pas une première. C'est votre chronique européenne cette semaine. Ça marche bien, ces alliances européennes diverses et variées dans l'industrie notamment?
Pas toujours. De la vaisselle qui vole entre actionnaires et voisins européens, les exemples ne manquent pas. Souvenez-vous du mariage mouvementé entre les chantiers navals de Saint-Nazaire, STX, et l'italien Fincantieri. François Hollande avait donné sa bénédiction, l'idée étant de créer un Airbus de la construction navale. Volte-face d'Emmanuel Macron, à peine élu, il dénonçait une menace extérieure avec en toile de fond la crise des migrants. Entre Paris et Berlin aussi, on s'est beaucoup crêpé le chignon à la tête d'EADS dans les années 2000, lorsque les deux pays dirigeaient ensemble le groupe de défense. Les retards de livraison de la 380 ont finalement montré toutes les limites de cette gouvernance bicéphale.
Alors qu'est-ce qui ne marche pas ?
L'ego des dirigeants, les conflits entre actionnaires, mais aussi les différences culturelles et économiques. Pas facile de concilier l'interventionnisme de l'État actionnaire à la française et le rigorisme économique des pays du Nord. Il faut une sacrée dose de bonne volonté pour y arriver. Dans le cas de KLM, il y a aussi une question de souveraineté. La couronne des Pays-Bas trône toujours sur les ailes des avions. KLM est un fleuron national. Paris l'a un peu oublié, semble-t-il, dans ses projets. Et lorsque des emplois sont en jeu, ça tourne carrément au vinaigre. Par exemple, lorsque PSA a racheté l'allemand Opel, Angela Merkel a vu rouge, la chancelière est montée au créneau pour défendre les augmentations de salaire côté allemand, quasiment du jamais vu outre-Rhin. Bref, difficile de défendre une stratégie industrielle face à des enjeux nationaux.
Est-ce qu'il y a des mariages heureux tout de même ?
Oui, dans l'espace, les mariages européens sont un peu plus apaisés. Le GPS européen Galileo est en route vers le milliard d'utilisateurs après des ratés à ses débuts. Avec 22 satellites, la constellation européenne est quasi complète. Quant à la fusée Ariane 6, le nouveau lanceur européen, eh bien, il est dans la course au New Space, le nouvel âge spatial, face au lanceur SpaceX du milliardaire américain Elon Musk. Parfois, la sérénité vient après la tempête. Chez EADS, après une longue bataille diplomatique, Paris et Berlin se sont finalement mis d'accord pour qu'il y ait un seul patron à la tête de l'entreprise.
Alors, est-ce qu'un Airbus de l'industrie est possible ?
En tout cas, ce serait utile dans l'intelligence artificielle, dans la voiture électrique, fédéraliser la recherche comme aux États-Unis. En Europe, pas de budget comparable pour l'innovation. D'autant qu'à l'heure des populismes, l'industrie européenne se repolitise, constatent certains experts. On le voit avec le TGV Lyon-Turin, otage de la coalition italienne. La grosse colère franco-allemande après la fusion ratée Alstom-Siemens face aux décisions de la Commission européenne. Paris Berlin exige maintenant un droit de veto. Alors tout consensus est basé sur la confiance et de ce côté-là, en ce moment, en Europe, ça ne va pas très fort.
Et justement, je vous invite à réécouter sur franceinter.fr l'interview de Jean-Louis Bourlange, très europhile ce matin et très pessimiste sur l'état des relations entre partenaires européens. Non seulement l'assurance vie ne rapporte plus rien, mais si vous avez une assurance vie, vous perdez de l'argent en ce moment. L'association de consommateurs CLCV crie à l'arnaque. Rémunération moyenne l'année dernière 1,7%, c'est moins que l'inflation, la hausse des prix. Feu l'humoriste Fernand Reynaud aurait dit, il y a comme un défaut. François Carlier, délégué général de la CLCV.
À partir du moment où on laisse pendant 10 ans, on est en droit d'attendre des rendements supérieurs à l'inflation. Et nous, surtout, ce qu'on a vu, c'est que le rendement assurance-vie, c'est quelque chose de construit par le professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, les assureurs ou les banques, qui sont aussi banques assureurs, en fait, l'argent qui est placé en assurance-vie, lui, le place, il en touche un rendement. Et après, ce rendement, il en distribue, nous, on l'avait calculé en moyenne, il en distribue que 75%. Et puis, il y a 25% pour ses frais de gestion. Et puis, qu'il met en réserve, bon, pour plus tard. Et il peut décider de distribuer plus ou moins. Alors, c'est pour ça que là, par exemple, on avait des enseignes de type caisse d'épargne ou banque postale qui ont des rendements bien en dessous de l'inflation, mettons à 1% ou à 1,25%, alors même que pendant 10 ans, ils ont mis en réserve quasiment 40% de ce qu'ils gagnaient. Là, c'est vraiment assez choquant.
Propos recueillis par Hélène Philly. Loto du patrimoine saison 2. La première date clé, c'est ce soir, dernière limite pour soumettre à Stéphane Bern et ses équipes les dossiers de monuments qui ont besoin d'un petit ou grand rafraîchissement.
Pour financer cela, il y a donc le loto qui a fait un triomphe l'année dernière, loto du patrimoine. Bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour Bruno.
Puisque ça a marché, la Française des Jeux et la mission patrimoine recommencent avec des nouveautés cette année.
Oui, alors la première, c'est un tirage exceptionnel le 14 juillet. C'est une date symbolique, hein, bien sûr. Mmh. Et la Française des Jeux veut ainsi donner une plus grande ampleur à ce loto du patrimoine. Un jackpot qui là reste inchangé de 13 millions d'euros. Le jeu à 15 euros avec un gain d'1,5 million qui était proposé donc cette année et l'année dernière, est reconduit. La nouveauté, c'est qu'il sera accompagné cette fois d'une gamme de 12 tickets à 3 euros avec un gain de 30 000 euros. On se souvient que le prix de 15 euros avait fait polémique. Il s'agit donc pour cette deuxième année de toucher un autre public. Bien que l'an dernier, ce ticket un peu cher ait connu un énorme succès, la Française des Jeux a constaté que 200 000 clients étaient de nouveaux joueurs. Autre changement parmi les projets, une attention particulière portée à ceux concernant les centres-bourgs et les centres-villes. Vous l'avez dit hier, à la veille de la clôture des candidatures, plus de 3000 sites ont été recensés. L'envie de la Française des Jeux, bien sûr, c'est de faire mieux que ces fameux 22 millions de l'année dernière.
Et vous pouvez réécouter Stéphane Bern, qui était hier l'invité du Téléphone Sonne sur franceinter.fr. Dans moins d'une heure, à Vendôme, Loire-et-Cher, se tient une vente aux enchères hors du commun. Vente aux enchères de météorites. C'est la collection authentifiée par le Muséum d'Histoire Naturelle d'un chasseur français de météorites. Il s'appelle Gérard Merlier. Depuis 20 ans, il passe une partie de sa vie dans le désert à la recherche de ces pierres tombées de l'espace. Sandrine Houdin l'a rencontré. Comment chasse-t-on les météorites? D'abord, on n'y va pas seul et il y a au moins deux objets indispensables.
Déjà, tout bon chasseur de météorites a ça.
C'est quoi?
Un sifflet pour appeler le collègue si jamais il est trop loin. L'aimant, hop, ça colle à l'aimant. Hop, voilà.
Comment vous êtes venu à la chasse aux météorites?
J'ai toujours été attiré par les pierres et les minéraux. Et au décès de ma femme, j'étais perdu. Je ne savais plus que faire dans ma vie. Donc je suis parti dans le désert saharien. Et là, je rencontre deux Français, un soir, au bivouac. Je leur pose la question, qu'est-ce que vous faites? On est des chasseurs de météorites. J'ai dit, c'est pas vrai. Ça existe ça, des chasseurs de météorites? Je ne savais même pas que ça existait, moi. J'ai dit, je vais devenir chasseur de météorites. Et comme j'avais pas trop d'argent, vu que je travaillais dans le bâtiment, je me suis dit, tiens, mon terrain de jeu, ça va être le Sahara.
Pourquoi le désert?
Le sol est plat, mais sur des kilomètres et des kilomètres, sans végétation. Donc c'est bien plus facile pour repérer ce qui est noir, mis à part les crottes de chameaux, parce que des kilomètres, j'en ai fait pour les crottes de chameaux, hein, que je voyais là-bas au large, là. Et je me disais, tiens, je vais y aller. Oh, c'est une chute multiple. Et j'allais là-bas, c'était des crottes de chameaux.
Vous avez eu des météorites qui venaient d'où?
Ah, mais j'ai de tout, moi. Ça, c'est un bout de lune.
Là, vous trimballez avec un bout de lune, là.
Oui. D'un gramme, un.
Quel est votre préféré?
Bah, après, c'est toujours pareil, quoi. Il y a les grains cométaires, c'est encore plus rare que les lunaires ou les martiennes. C'est le Graal.
Pourquoi vous en débarrassez?
Pour retourner dans les déserts, cette question.
Vous ne pouvez pas vous en passer.
Non. Jusqu'à la fin, c'est bien simple, jusqu'à la fin, j'irai chercher des météorites dans les déserts.
Votre dernier souffle?
Allongé sur une dune. Voilà, mon rêve.
Et des informations sur cette vente aux enchères sur le site rouillac.com.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Pas forcément besoin de chaussettes, Sébastien Léas.
Les conditions changent cet après-midi et les nuages reviennent sur le pays, recouvrant une majeure partie de l'Hexagone. Quelques éclaircies se dessinent en Bretagne et dans le sud-ouest. En revanche, quelques gouttes se font remarquer sur la moitié nord. Entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, des averses plus régulières se mettent en place, tournant même parfois à l'orage. Ces averses se décalent progressivement vers l'est, débordant sur l'Île-de-France en fin d'après-midi. L'ambiance reste douce, malgré une forte baisse des températures, les maximales variant entre 13 et 19 degrés. Le soleil fait quand même de la résistance en plaine d'Alsace, sur les Alpes et autour de la Méditerranée. Et les températures restent très élevées cet après-midi, grimpant entre 17 et 24 degrés. Des nuages côtiers bordent la Provence et la Corse et atténuent cette grande douceur.